Bienvenue à toi dans les entretiens positifs. Je m'appelle Capucine et je suis chimiste. Dans la vie, je suis passionnée de molécules tout autant que de gens qui m'entourent. Ce podcast, c'est un petit peu de la chimie humaine. J'invite mes proches à venir échanger sur un sujet de leur choix et qui les fait triper. On y retrouve un petit peu de tout ce qui fait l'âme d'une discussion. La philo, de l'introspection, des confidences, de l'intimité. Par principe, on cherche moins à trouver des réponses qu'à se poser des questions. En fait, mon but, c'est plutôt de faire naître d'autres conversations enrichissantes avec les gens qui te sont chers. Donc, quoi que tu désires en retirer, je te souhaite une bonne écoute. J'ai rarement eu autant de difficultés à trouver les mots juste pour présenter mon invité, tellement le bagage émotionnel est fort. En novembre 2001, c'est suite à un changement de programme que Célia est arrivée dans ma classe, en plein milieu de notre cinquième année du primaire. Au fil des années partagées, nous avons développé une amitié plus profonde et fusionnelle que beaucoup de mes relations amoureuses. À bien des égards, je la considère comme faisant partie de ma famille. L'amour qui nous unit est un pilier, un ancrage, un safe space dans lequel nous nous sommes vus grandir, changer, faire des erreurs et nous les pardonner. Dans ce troisième épisode, nous vous accueillons dans notre intimité pour vous raconter en vrac des histoires d'amour et des peines de cœur, dont nous avons plus ou moins tiré des leçons. Le premier amour qu'on vit et qu'on ressent, je pense que c'est l'amour familial.
Quand on en a la chance, ouais.
Ouais. Mmh. Oui.
Mes parents sont divorcés quand j'étais hyper jeune. Et du coup, j'ai toujours eu ce discours de genre « Ah, c'est triste, tes parents sont divorcés et tout. Mmh. » Mais en fait, plus le temps passait et plus je me suis rendu compte de cette richesse incroyable que ça m'apportait.
Ouais.
Parce que, en fait, ma mère s'est remariée assez rapidement avec une personne hyper, hyper chouette, et donc je considère que j'ai comme deux papas trop bien, deux fois plus d'amour de ce côté-là. Et puis oui, ça m'a aussi donné des moments privilégiés avec mon père pendant toute mon enfance, parce que du coup quand je voyais mon père, je voyais aussi mes grands-parents maternels. Enfin, j'ai l'impression que oui, ça a juste créé plein de relations privilégiées, et mine de rien, on peut considérer que c'est différents types d'amour en fait, parce que c'est juste des personnes différentes. Je pense que je me suis toujours dit qu'il y avait différentes formes d'amour, et je pense que plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait elles fusionnent en fait, et que moi ce que je ressens c'est un peu le même. Enfin, c'est, je pense que utopiquement j'ai envie d'avoir une espèce d'amour universel.
Mais paradoxalement c'est presque un peu religieux, je trouve. C'est ma grand-mère, elle est de confession catholique. Pendant très longtemps elle a vraiment été très intense sur la religion. Au point où ma mère, mes oncles, mes tantes en ont parfois souffert de la rigidité associée à la religion. Et on est, il y a un switch dans sa confession. Elle a commencé à m'en parler en disant « En fait, j'ai tout compris. Dieu, c'est juste l'amour. Et la manifestation de Dieu sur Terre, c'est l'amour qu'on se portait les uns les autres. »
Je trouve ça hyper beau, en vrai. Je trouve que c'est un beau but. Enfin, qui, en tout cas, moi, me parle beaucoup.
Ouais, ta mère a eu un fils avec...
Oui.
Avec ton beau-père, et tu l'as toujours considéré comme ton frère, même si vous n'avez pas le même père.
Ouais, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mmh. Et puis même dans un second temps, mon père, il s'est donc trouvé une nouvelle conjointe, et pareil, ça a été une nouvelle richesse, une nouvelle source d'amour. C'est la même cellule familiale quand même, donc on a quand même des valeurs hyper similaires et tout. Mais rencontrer des mécanismes différents de personnes qui vont du coup manifester leur amour de manière hyper différente. Mm-hmm. C'est une richesse folle, et je pense que ça a beaucoup contribué à ma vision de l'amour actuelle, où j'ai l'impression que en fait elle prend différentes formes, et il faut aller la chercher là où elle est, quoi. Enfin, en fait on peut juste la voir partout si on prend le temps de comprendre la personne. Dans ma famille on se dit pas je t'aime, ça c'est un truc qui n'existe pas. mais on sait qu'on s'aime. Mon père, on va s'exprimer notre amour beaucoup par se faire des câlins, faire des activités ensemble, etc. Ma mère, j'ai l'impression que en fait, oui, bien sûr, il y a des bisous et des câlins, mais c'est pas beaucoup moins maintenant que je suis dans ma vie d'adulte. Et pour moi, c'est c'est le dévouement et la stabilité qu'elle m'a accordé toute ma vie, quoi.
Oui, le fait de faire confiance, d'être présente pour toi.
C'est ça.
Si t'avais un problème.
De savoir que je peux compter sur elle. Ouais, ouais, vraiment. Après, avec mes frères, ils sont très très peu dans l'expression de leurs émotions, donc je sais qu'on s'aime et qu'on est content de se retrouver, mais ça va être vraiment l'amour vache. Je te dis que t'es moche pour te dire que je t'aime, tu vois. Enfin, ouais. C'est...
parce que pour moi, si tu me dis pas que tu m'aimes et si t'as pas des petites attentions pour moi, mettons, je pense que je suis pas importante pour toi. Les membres de ma famille s'expriment quand même relativement tous un peu de la même manière sur leur amour, et j'avais jamais réalisé ça, mais maintenant que j'y pense, je me demande si pendant longtemps, ça m'a pas gardé justement dans un état où j'avais même pas la réalisation qu'il y avait d'autres façons de dire qu'on s'aimait autres que les façons que je connaissais.
Il y a eu des moments où j'ai vécu le fait que quelqu'un voulait me donner de l'affection physique comme presque une forme d'agression. Je ne me sentais pas à l'aise. Je le percevais négativement. Et à partir de là, je me dis, oh mon Dieu, cette personne voulait juste me donner de l'amour. Je trouve ça impressionnant à quel point, jeune, tu as réussi à faire ce travail que beaucoup d'entre nous, on a vraiment de la misère à faire. De juste se dire qu'il n'y avait pas une seule expression de l'amour familial. C'est par exemple quelqu'un qui va dire quelque chose maladroitement pour essayer d'exprimer une émotion, de dire ok, peut-être que ça veut dire autre chose, peut-être qu'il essaie de me dire qu'il m'aime, mais de façon différente, plutôt que de le prendre personnel. Tu sais, tu me dis quelqu'un qui se fait dire t'es moche, il pourrait juste se dire ah ben je suis moche, tiens.
Mais ouais, je sais pas si vraiment c'est un travail que j'ai fait très jeune ou si maintenant c'est quelque chose que je peux dire avec le recul. Mais je pense que oui, j'avais quand même déjà un peu ce recul parce que c'est pas du tout quelque chose dont j'ai souffert. Je sais que moi, de manière générale, dans mes relations, j'arrive pas à avoir des relations superficielles. Dès le début, je vais vraiment accorder ma confiance à la personne d'emblée. Et enfin, à partir du moment où je sens que je vais avoir autre chose que quelque chose de superficiel avec elle, ça peut venir dans un second temps. Mais en tout cas, pour considérer que c'est une vraie amitié, je vais faire parler d'une certaine manière les personnes. Donc, en fait, pour vraiment donner de la sincérité à la relation, moi, je vais avoir besoin de savoir ce qu'ils ressentent vraiment. Je pense que je fonctionne comme ça parce que j'ai un peu les mêmes besoins d'exprimer ce que je ressens quand je les ressens. Et du coup, ça me permet de créer un cadre sain dans lequel je sens que ça va être un échange. Et du coup, oui, je remettrai pas en question l'amour qu'on me porte.
Tu construisais ce domaine de confiance parce que tu faisais déjà la sélection des gens. Moi, je pense que je faisais plus rentrer tout le monde. genre, n'importe qui, whatever, genre, je veux bien être amie avec tout le monde. Mais ça me laissait moins de marge de manœuvre pour accorder ma confiance a priori. Alors que la relation familiale, quelque part, l'amour, il est un petit peu là d'emblée, tu sais, dans un certain sens. Il peut s'effriter si jamais la relation se passe pas bien, mais on part un peu du principe qui est là d'abord, que la relation d'amitié, au début, il n'y a rien. Et donc, tu fais tout construire, en fait.
Moi, je sais pas à quel moment tu dis « Ah, ça y est,
ouais, c'est ça. » C'est ça que je me posais comme question. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi, l'amitié? C'est quoi la place que ça a dans ta vie?
C'est mon quotidien. C'est un peu bizarre, mais c'est une forme de médicament aussi, où en fait, moi, je sais que pour gérer mes émotions, j'ai besoin d'en parler. Et pour comprendre mes émotions, avant même tout simplement de les gérer, c'est juste un luxe incroyable d'avoir une personne qui est là pour t'aider à décrypter et à comprendre ce qui se passe vraiment dans ta tête et quels sont tes problèmes et tout. Et en fait, dans cette démarche-là, ça m'est complètement essentiel, en fait, de créer des liens forts et de prendre soin des gens qui m'entourent aussi.
Est-ce que tu verrais ça comme une sorte d'extension de l'amour familial, en fait, d'une certaine façon?
Pour moi, c'est le même amour, mais après, les relations sont forcément différentes. Tu vas pas forcément voir les personnes dans le même cadre, tu vas pas forcément avoir le même degré d'intimité, ça va pas se manifester de la même manière. Si t'as passé que quelques vacances par-ci par-là avec tes cousins, ce sera forcément différent que l'ami avec tu vois au quotidien et avec qui t'as construit depuis des années et des années.
Qui était là dans les moments difficiles.
Qui était là pendant les moments difficiles.
L'amour semble en tout cas naître beaucoup dans le fait d'avoir accordé une confiance et que ça a été honoré. Parce que tu te rends vulnérable et la personne est comme à la hauteur de ta vulnérabilité. On dit souvent, en même temps, la famille, ils sont là depuis le début, tu sais. Mais je me suis rendu compte récemment que je t'ai connue avant de connaître mon frère.
C'est vrai.
Je te connais depuis plus longtemps qu'Arthur. Oui, les liens de sang, d'accord, mais rendu là, où est la limite? La limite commence à devenir floue, moi, je trouve.
Mais je pense qu'en tout cas, en amitié, il faut une forme de réciprocité dans l'échange. Du coup, c'est peut-être là qu'on peut voir une forme de différence.
Ouais.
Quand tu parles d'accorder ta confiance et que quelqu'un t'accorde sa confiance en retour et que du coup, vous créez un espace où vous pouvez vous exprimer tous les deux, j'ai l'impression que c'est peut-être moins vrai dans un cadre familial. Comme on a cette image, de toute façon, on va s'aimer quoi qu'il arrive parce que soit on partage le même toit, on partage le même sang, enfin.
Mais est-ce que ça, c'est pas un biais finalement? Justement, on segmente en se disant, il faut que l'amitié soit réciproque alors que dans la famille, non, il y a l'amour inconditionnel. Mais est-ce qu'au final, on devrait pas se dire que c'est la même chose et appliquer les mêmes règles partout? C'est-à-dire, je sais pas, je pense qu'il peut y avoir des relations familiales qui peuvent devenir extrêmement toxiques parce que justement, on prend trop l'autre pour acquis. Ou qu'on a trop d'attentes envers ce que la personne devrait nous donner, puis que la personne est comme pas à la hauteur, tu sais.
Ouais, bien sûr.
Peut-être parce qu'on a accordé cette confiance a priori dans la famille. D'un côté, ça nous donne beaucoup de sécurité, ce qui est essentiel pour pouvoir avoir une relation intime. Mais de l'autre, ça peut vraiment laisser la place à des dérives. Tu peux te retrouver à accepter des choses que tu n'accepterais pas nécessairement. Il y a des histoires familiales qui sont terribles, tu sais, de gens qui se font voler de l'argent, manquer de respect. Déjà que c'est dur de mettre fin à une relation d'amitié, que dans les relations familiales.
Ouais, et puis... Au final, t'entends quand même beaucoup d'histoires de relations familiales où les gens coupaient les ponts radicalement.
Ouais.
Et en fait, bah, ouais, ça paraît peut-être être la seule solution dans ces cas-là.
Ouais.
L'amitié aussi, ça sert à pouvoir, à côté, créer une relation amoureuse saine. Enfin, en tout cas, ça ouvre le dialogue avec un allié ou quelqu'un qui nous comprend. Pour décrypter une relation amoureuse. C'est pas une relation qu'on va mettre en avant quand on veut, d'une certaine manière, que la population se reproduise et fasse plein de petites familles. On nous met en tête que, en fait, bah, y a le grand amour, qu'il y a une personne vraiment qui doit compter dans notre vie.
La femme de ta vie, l'homme de ta vie. Ouais.
Et c'est la personne avec laquelle tu dois partager ta vie.
Une seule personne ne peut pas tout nous apporter dans la vie.
Bah, ça, malheureusement, c'est pas ce qu'on nous dit.
C'est pas ce qu'on nous dit. Mais c'est fou qu'on nous dise ça.
Ouais, c'est complètement fou.
Mais moi, je pense qu'avec la relation unique et l'idée qu'il y a une relation principale et des relations secondaires, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la relation principale. Où tu deviens très difficile parce que t'as l'impression que... T'investis énormément dans cette relation, donc la personne doit vraiment combler le maximum de tes besoins et être capable de te correspondre et de t'apporter sur un nombre d'aspects qui est irréalisable, tout simplement.
Complètement.
Oui, on parle pas nécessairement de comme genre exclusivité, etc., mais plutôt vraiment de cette image que genre notre but dans la vie, ça, c'est éventuellement de rencontrer quelqu'un. Et puis vous en avez déjà entendu cette phrase de notre famille, de nos oncles et tantes. Alors, as-tu rencontré quelqu'un puis c'est quand tu rencontres quelqu'un
Mais je pense que c'est aussi vachement induit par la vision de la famille, en fait.
Mmh.
Et notamment quand tu veux avoir des enfants, et ben, en fait, on n'a pas d'exemple, en tout cas dans notre vision occidentale, on n'a pas d'exemple de famille où l'éducation des enfants est partagée.
Mmh.
Et du coup, c'est un truc qui se fait à deux. Dans cette démarche-là, ça semble essentiel de rencontrer le bon partenaire, où ça fait... 2 ans que j'ai été en couple vraiment officiellement et qu'à côté de ça, j'ai construit des amitiés qui prennent vraiment beaucoup de place et qui sont essentielles pour moi.
Comme si on avait un capital d'amour. Et que c'est sûr que si on donne beaucoup, beaucoup de temps d'amour à une seule personne, bah, il ne nous en reste pas beaucoup pour les autres.
C'est sûr. Ouais. Mais c'est...
Y compris nous-mêmes.
Bah, si tu ne prends pas le temps de vivre des expériences avec d'autres personnes, bah, tout simplement, tu... construit pas.
Il y a aussi parfois une notion un petit peu de confort quand t'as justement cette relation-là que tu peux comme reach out à chaque fois que ça va pas. Il y a aussi un peu des attentes, je trouve, dans la relation amoureuse unique, l'idée que la personne doit être tout le temps disponible pour toi, qu'elle doit tout le temps te comprendre et qu'elle doit comme un peu mettre ses choses de côté quand toi tu files pas. Moi j'étais dans une relation avec une de mes ex que je suis tombée dans ce piège de comme vraiment que ça devienne ma principale source de réconfort, alors qu'il y a plein de gens qui peuvent nous en apporter de plein de façons différentes, et parfois des personnes qui peuvent nous dire un peu des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'entendre, mais que c'est important que des gens nous le disent. Et quand on a une seule personne qui a ce rôle-là, bah, au bout d'un moment, elle va juste un peu toujours nous dire la même chose.
C'est surtout que nous, on ne va plus l'entendre. Les conseils ont beau être bons, ça perd beaucoup en poids. Et puis tu reviens un peu toujours les mêmes scènes, en fait.
Et puis tu deviens fou. Les autres relations sont essentielles pour justement... créer cette balance-là qui va faire que tu vas toujours trouver du plaisir et de la nouveauté dans ta relation amoureuse.
J'ai eu une très longue relation, de mes 17 à 25 ans. Mais quand je la vois maintenant... sous le prisme de est-ce que j'étais en relation avec quelqu'un qui devait satisfaire tous mes besoins, je pense que je savais que non. Mmh. C'était vraiment pas mon niveau d'attente. Et au contraire, on était extrêmement différents l'un de l'autre. Enfin, et vachement proches sur plein d'autres aspects, mais...
Ouais. Vous essayez pas nécessairement de vous changer mutuellement.
Non, mais on s'est quand même changé mutuellement.
Mais oui, mais parfois il y a certaines personnes, en fait souvent, qui ont vraiment une image de comment ça devrait être et qui... cherchent à faire fitter leur relation dans un moule, tu sais.
Mais tu vois, avec le recul, je me demande, est-ce que finalement, enfin, on s'est pas séparés parce que moi, je me suis pas posé les bonnes questions. On est restés très longtemps ensemble, mais pendant très longtemps, je me projetais pas du tout. Enfin, j'avais pas d'attente. Et finalement, bah, je crois que quand on s'est séparés, c'est parce que d'un coup, j'ai eu des attentes. Il y a eu une désynchronisation et ça pouvait plus marcher, en fait. Parce que ça rejoint vraiment le fait que j'ai toujours pas déconstruit cette vision de la relation.
Et à l'époque, même si tu disais que t'avais pas d'attente, ça prenait quand même beaucoup, beaucoup de place. Vous passiez beaucoup de temps ensemble, vous avez habité ensemble très longtemps.
On a habité ensemble au bout de 6 mois de relation. Même pas. Parce que déjà, on squattait déjà tellement chez l'un chez l'autre que c'était comme si on habitait déjà ensemble. Mais oui, c'était clairement le socle de ma vie, quoi.
Moi, clairement, la relation entre mes parents, ça a vraiment été un gros game changer dans mon appréhension des relations. Parce que moi, mes parents, ils ont été très amoureux, très bien ensemble, très mal ensemble. Et ils ont fini par se séparer dans des conditions qui étaient difficiles. Donc j'ai tout vu, genre, à quel point une relation peut être fusionnelle, parce que mes parents étaient très très fusionnels, ils faisaient tout ensemble, extrêmement fonctionnels, puis extrêmement dysfonctionnels. Tu peux plus, après ça, croire qu'il y a un partenaire unique qui va satisfaire pour tout le reste de ta vie, parce que tu as vu à quel point ça peut être le cas pendant une période de temps donnée, et plus du tout le cas après. Si ça t'offre, fine, génial, tant mieux, mais c'est juste le jour où ça pète vraiment fort, là, comme quand t'as juste tout bâti, tout misé sur une seule relation, vraiment extrêmement structurante, quand ça casse, tu peux vraiment te retrouver dans des états... Moi, ma mère, je pense, est un peu oubliée dans la relation, tu sais. Mais ça, comment tu veux le voir, quand t'as rien d'autre pour te questionner par rapport à ça?
Mais après, est-ce qu'il faut viser la sécurité? Tu vois, est-ce que ça doit être vraiment notre approche? Enfin, en tout cas, dans le discours qu'on entend, c'est... Si c'est le grand amour, il faut tout donner, tu vois. Il faut... pas de parachute, c'est bon, tu vois.
C'est fou, hein. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
J'en pense que j'ai pas envie d'intellectualiser le fait d'avoir un parachute.
On voit un peu deux profils de personnes, tu sais, les gens qui se lancent à corps perdu, puis parfois qui... genre perdre le contact avec les réalités, et d'autres au contraire qui ont tellement tellement peur de se lancer qu'au final ça va prendre le même espace, mais ça va juste être de l'espace négatif où ils vont tellement se stresser. Puis je pense que je suis beaucoup tombée dans cette chope là d'être comme non, trop d'engagement, je suis pas à l'aise, je sais pas, j'ai pas l'air. Mais au final t'en parles autant de ta relation, c'est juste que tu la vis de façon un peu plus négative.
Si je dois vivre une relation d'amour très intense, quitte à oublier un peu ce qu'il y a à côté, je compte sur mes amis, ma famille, pour me dire genre, hey, peut-être là tu t'oublies. Ouais. Genre, peut-être.
Je pense que si tu continues de te dire que les amitiés pour toi sont essentielles, tu leur raccorderas du temps dans tous les cas. Et donc, si tu libères ce temps-là, genre en te disant, je vais comme donner l'espace minimal pour mes relations d'amitié, tu continueras à avoir ces espaces de discussion. Et au final, ça va te maintenir dans ce que tu appelles un espace sain. Où les gens vont se sentir à l'aise de dire, ok, là je pense que ça va pas, ou là je pense que ça va bien, continue, tu sais. L'idée de se lancer sincèrement et à 100% dans les relations, moi je l'applique à toutes mes relations. Mais c'est quoi qui fait que la relation amoureuse, c'est la relation amoureuse?
C'est une très bonne question. Ouais. Je pense que la première fois où je me suis vraiment, vraiment posé la question, c'était à la fin de ma relation très très longue. Je savais que j'avais été amoureuse, et je savais plus ce que ça voulait dire être amoureuse, au stade où j'en étais. On te dit que c'est normal quand la relation dure très longtemps, on perd un peu l'excitation du début. Est-ce que ce qui reste, c'est être amoureuse?
De ce que j'ai compris, ça se bâtirait sur 3 choses. La première, c'est l'attirance. Le fait d'avoir envie d'être proche de la personne physiquement, d'avoir envie de la voir, de passer du temps avec, de coucher avec, etc. C'est comme un désir presque animal, là. Après, tu ne peux pas faire de bébé avec une autre fille, mais ça reste que tu as quand même ce désir de procréer. Des fois, le corps, il est pas trop compris. Ensuite, la deuxième chose qui se bâtit un peu après, c'est de l'intimité. Le fait de, genre... te sentir à l'aise d'être toi-même, de t'ouvrir, de parler de tes sentiments. Et la troisième, c'est la projection. Donc le fait d'avoir des projets pour le futur. Et en fait, les trois doivent exister. Et je pense qu'il y a beaucoup de moments où on confond toutes parce qu'on a de l'intimité dans nos relations amicales, parce qu'on va être très attiré par quelqu'un, mais on ne va pas construire d'intimité avec. Ou alors qu'on ne va juste jamais passer l'étape de la projection parce qu'on a trop peur. Ouais. On peut placer plein de relations qu'on a sur cette espèce de tridimension, ce cube, en fait. Pas parce que tu es attiré par quelqu'un puis que vous êtes super proche que tu dois être en couple avec si tu n'as littéralement pas envie de te projeter avec, tu sais.
Ouais, c'est marrant, j'aurais pas du tout mis la projection dans ce
lien-là. Moi non plus.
Enfin, c'est une toute nouvelle approche.
Et il faut trouver cette balance subtile entre le fait d'être intime, d'être proche, de vraiment partager, mais aussi de garder une distance suffisante pour que tu sois toujours attiré. Et l'attirance, c'est pas que physique, c'est aussi genre la personne m'inspire, la personne elle fait des choses de son côté que je trouve géniales. C'est quand même une balance subtile. Hein.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que ça prend autant d'énergie, une relation amoureuse. Parce que c'est rough. L'amour se promène sur un spectre et il semblerait que la relation amoureuse, ce soit vraiment la réunion de plusieurs facteurs qui fait que ça fait un peu comme une sorte d'alchimie. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'on parle de genre la bonne personne ou le grand amour, parce que d'un coup c'est comme plein de paramètres qui s'alignent, tiens,
oui,
et qui donnent quelque chose qui est genre vraiment très fort.
Oui, et puis ça paraît hyper précieux du coup, parce que c'est rare.
Ouais. Alors qu'on oublie que c'est du travail en fait.
Oui, non, complètement. Alors ça par contre, c'est de la magie.
Mais dans l'imaginaire, c'est fou. Laurent m'avait envoyé un article il y a quelques mois qui disait que les relations, c'est pas tant les gens, mais la relation en fait. Tu peux prendre deux personnes qui fitent très bien ensemble, si elles travaillent pas pour leur relation sera nulle.
Okay.
Comme c'est le travail de la relation qui make-up une grande partie de ce qui fait que la relation est précieuse. Donc au final, on a l'impression, oh mon Dieu, il faut que je rencontre une personne-là spécifique, oh mon Dieu, c'est cette personne-là qu'il me faut, alors que non, c'est plutôt, c'est pour cette personne-là que j'ai envie de travailler comme un mongol pour que notre relation soit le fun. C'est complètement différent.
Oui.
Ça reste quelque chose d'important,
tu sais. Ah oui, bien sûr.
Et là, tu peux vraiment genre, y mettre tellement d'énergie et au final, malheureusement, sacrifier des choses que tu n'as pas envie de sacrifier parce que tu t'es juste trop perdu.
Ouais. Mais t'as besoin d'une personne qui travaille aussi pour toi. En tout cas, dans le couple tel que je l'ai vécu, je m'oublie bien vite. Enfin, je suis un peu une éponge. Du coup, je vais absorber toutes les envies de l'autre. Enfin, je vais quand même me questionner sur mon bonheur et tout. Et je serai vraiment hyper heureuse. Mais oui, c'est un peu bizarre. Hein. Je vais moins écouter ce que j'ai envie de faire.
Ouais.
Et du coup, bah, après, quand je vais faire le bilan, souvent trop tard, je vais me sentir déçue. Vivre ses passions, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. J'admire les gens qui ont des passions.
Mm-hmm.
Et du coup, dans mes relations, je vais vivre les passions de l'autre.
Ouais.
Mais avec beaucoup de plaisir, parce que, en fait, si la personne avec qui je suis a du plaisir là-dedans, bah, je vais juste le ressentir.
Mais c'est très, très cool de vivre sa passion avec quelqu'un. Mais si c'était pas ça que tu voulais faire initialement, effectivement, tu te retrouves dans une zone où... ça va pas t'amener là où t'aurais voulu que ça t'amène.
C'est hyper cool de découvrir les passions de l'autre, mais ça demande assez de stabilité pour se dire « Ah bah j'accorde tel temps à cette passion, mais il faut absolument que je garde du temps pour mes propres passions. » Faut pas seulement l'avoir en tête, il faut aussi le faire.
Ouais, absolument.
Et, donc, ça...
et ça prend du temps de mettre en place la discipline pour le faire. T'es tombée amoureuse récemment, tu penses?
Waouh. J'ai quand même l'impression que bah, quand tu rencontres quelqu'un, bah, ce que t'as au début, qui te met des petits papillons, c'est l'attirance. À moins que tu sois effectivement un ami, enfin quelqu'un qu'on connaît déjà très bien.
Mm-hmm.
Et oui, tu peux te projeter très très vite, mais t'as quand même pas les steps d'intimité. Quoi.
Ouais.
Parce que je suis tombée amoureuse, ouais, je pense que je suis tombée amoureuse. Ouais. C'était pas possible que ça débouche sur une relation de couple.
Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que, à l'heure actuelle, la façon dont la notion de couple est définie, c'est pas quelque chose qui te correspond?
Bah, je pense que c'est surtout que j'ai beaucoup de bagages.
Mm-hmm.
Enfin, là, j'ai l'impression que je suis à une étape où même la déconstruction de la vision du couple, c'est pas un effort que j'ai envie de faire.
Mm-hmm.
C'est plus que j'ai envie de temps pour me construire seule, pour me retrouver seule. Et ça m'a fait déjà tellement du bien ces deux dernières années, de me sentir bien plus indépendante, bien plus construite, cohérente.
Ouais. En adéquation avec tes désirs, tes besoins.
Oui. et j'ai l'impression que c'est un travail que je veux continuer à faire.
Est-ce que tu penses qu'éventuellement, tu es dans une démarche où tu aimerais être de nouveau en couple dans le futur? Ou tu te poses pas la question?
Si,
tu te projettes pas par rapport à ça?
Si, je pense que... tu vois, notamment, c'est cette relation idéale non déconstruite.
Ouais, ouais.
Si, c'est encore quelque chose que je vois. Quelqu'un de qui je suis amoureuse, qui est amoureux de moi, et avec qui on vit des choses chouettes. Enfin, cette étape de projection aussi, où on construit ensemble, en fait. Ça, je crois que c'est un truc que j'ai vraiment jamais eu, genre, vouloir fondamentalement construire avec quelqu'un. Et ça reste un truc dans ma tête où je me dis, bah, bien sûr, un jour je rencontre cette personne. Enfin, là, d'avoir eu cette période où... Je vais y dire pause. Donc, c'est... Tu vois,
c'est fou,
c'est
ouais.
Vraiment dire à quel point c'est ancré.
C'est ingrained, ouais, ouais.
Mais du coup, d'avoir eu cette période où mes amitiés ont pris beaucoup, beaucoup de place et que, bah, notamment, tout ce que j'ai construit, c'était avec mes amis, bah, c'est juste impossible d'enlever ça, maintenant.
C'est ça.
Mais tu vois, après, avec le recul, je me dis que ça dépend beaucoup du cadre.
Ouais.
Parce que autant c'était un truc qu'on avait... Enfin, les amitiés, c'était essentiel au lycée. Dès que j'ai changé de cadre, donc je suis allée en études supérieures, que j'ai rencontré mon copain de l'époque, je me suis retrouvée dans un milieu extrêmement masculin, et enfin, mes relations fortes en amitié, avec intimité, c'était avec des filles. C'était pas naturel, en tout cas, de créer des amitiés hyper profondes dans ce cadre-là.
Puis je pense que t'étais aussi en couple avec quelqu'un qui était pas dans une démarche où il mettait de la distance avec toi non plus.
Ah bah, aucune
distance, êtes beaucoup... Vous êtes engrainée là-dedans aussi,
ouais, complètement, ouais.
Je nous souhaite de reconstruire des modèles de couple qui ressemblent au genre de vie qu'on a envie de vivre. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile quand on nous martèle comment un couple doit être. Et qu'au final, ces périodes de, pas de pause, mais juste d'exploration, en fait, tout simplement, on rencontre des gens, on voit comment ça peut fitter, on s'essaye, puis ça marche pas, puis ça marche bien. Puis...
Ouais, et puis des fois ça dure, et c'est comme ça. Hein.
Puis c'est le fun, puis ça peut évoluer aussi, et... Il faut se re-questionner tout seul, à deux, à quatre, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle place ça prend dans notre vie, tout en me laissant la place pour tomber amoureuse.
Oui.
Waouh, quel merveilleux voyage que j'ai fait cet été-là, où j'ai pu avoir la chance de faire cette entrevue dans l'appartement à Célia, à Paris. Appartement qu'elle a quitté depuis d'ailleurs. C'est sûr que ça fait soulever beaucoup de questionnements ce genre d'entrevue parce que c'est confrontant de se questionner rationnellement sur quelque chose qui est aussi simple et limpide que juste un sentiment comme celui de l'amour. Évidemment, comme le dit très bien Célia, parfois on a envie d'en discuter puis parfois on n'a pas envie de le rationaliser. Il en a simplement envie de le vivre. Je pense qu'il y a clairement un intermédiaire à trouver entre nos peurs et nos raisonnables inquiétudes. Fait que, ben, comme d'habitude, pour terminer avec des souhaits, cette fois, je vais vous souhaiter beaucoup, beaucoup d'amour à donner, puis évidemment à recevoir. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.